Leçon 5. Le célibat. Objectif de la leçon. À la fin de cette leçon, les étudiants doivent être en mesure de 1. Comprendre le célibat dans une perspective biblique. 2. Identifier les priorités bibliques pour les choix concernant le mariage et le célibat. 3. S'engager à la pureté morale, à la piété, et à un service fécond pendant cette période de la vie. 4. Confier leur vie à Jésus comme Seigneur et obtenir la plénitude en lui. Adorer Jésus, célibataire ou marié. Étienne et Sarah essayaient de déterminer si le mariage était la volonté de Dieu pour eux. Sarah savait qu'en épousant Étienne, qui était missionnaire, sa vie changerait à bien des égards. Elle allait déménager dans un nouveau pays, apprendre une nouvelle langue, et s'adapter à une nouvelle culture. Elle savait qu'elle allait devoir quitter ses habitudes et son confort. Elle connaîtrait des frustrations et des sacrifices. Dans ces conditions, le mariage ne serait pas seulement un engagement d'amour envers son mari, mais aussi un acte de foi et d'amour envers Jésus. Avec le temps, Étienne et Sarah ont réalisé qu'ils n'étaient pas compatibles et qu'ils ne devaient pas se marier. Sarah s'est sentie déçue. Elle a prié au sujet de sa déception. Elle a prié pour demander à Dieu de l'aider à porter du fruit dans son service durant cette période de sa vie. En priant, elle a réalisé que s'en remettre à la volonté de Dieu était tout autant un acte de foi et d'amour pour Jésus que l'aurait été le mariage. Le célibat. Dans ce cours, nous étudions le dessein de Dieu pour le mariage. Grâce à la Bible, nous découvrons les objectifs de Dieu concernant le mariage. Nous discutons des instructions divines pour le mariage et des moyens concrets pour affermir nos relations conjugales. Nous découvrons la bonté du plan de Dieu pour le mariage. Le mariage est la volonté de Dieu pour la plupart des êtres humains. Cependant, de nombreuses personnes restent célibataires pendant plusieurs années avant de se marier. Cette période de célibat est parfois longue. Certaines personnes connaissent une autre période de célibat après la mort de leur conjoint ou après un divorce. Certaines personnes ne se marient jamais. Une personne peut rester célibataire pour l'une ou l'autre de ces raisons. Elle préfère les avantages du célibat à ceux du mariage. Elle craint le mariage, car elle n'a jamais observé un foyer harmonieux. Elle se consacre à des objectifs tels que l'éducation ou la carrière. Elle ne ressent pas le besoin émotionnel ou physique de se marier. Elle n'a jamais eu l'occasion pour un bon mariage, puisque les choix d'une personne célibataire affecte grandement sa relation avec Dieu et les autres, cette leçon se focalise sur la vie d'un chrétien célibataire. Les déclarations de Jésus et de Paul sur le célibat. Les pharisiens ont posé une question à Jésus sur le divorce. Après avoir écouté la réponse de Jésus, ses disciples ont conclu qu'il vaut mieux ne pas se marier. Matthieu 19, 10. Jésus, qui est resté célibataire tout au long de sa vie sur terre, a répondu que la plupart des êtres humains doivent se marier et que seuls de rares individus sont capables d'accepter un célibat de longue durée. Matthieu 19, 11 à 12. L'apôtre Paul, qui ne s'était jamais marié ou était veuf, a donné des conseils similaires aux chrétiens célibataires de Corinthe. À cause de la tentation de l'immoralité sexuelle, la plupart des êtres humains doivent se marier. 1 Corinthiens 7, 2, 8 à 9. Paul savait que la sexualité dans le mariage était un don de Dieu. 1 Corinthiens 7, 7, 1 Timothée 4, 1 à 5, Hébreux 13, 4. Paul a déclaré que l'acte sexuel ne doit pas avoir lieu en dehors du mariage. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 4. Paul a souligné un avantage du célibat. Les chrétiens célibataires peuvent consacrer leur temps, leur énergie et leurs efforts à plaire au Seigneur et à servir dans le ministère. 1 Corinthiens 7, 32 à 35. Paul est resté célibataire. 1 Corinthiens 9, 5. Il a choisi de rester célibataire afin de se consacrer à l'œuvre missionnaire à laquelle Dieu le destinait. Il considérait le célibat comme un don. 1 Corinthiens 7, 7 à 8. Il a enduré plusieurs souffrances dans son ministère. 2 Corinthiens 11, 23 à 28. Ses souffrances étaient plus faciles à affronter parce qu'il n'avait pas de femme ou d'enfant à charge. 1 Timothée 5, 8. Même si Paul a reconnu l'avantage du célibat pour son ministère, il existe également des avantages du mariage pour le ministère. Paul a déclaré que les êtres humains doivent tenir compte de plusieurs éléments lorsqu'ils décident ou non de se marier. Leur capacité ou incapacité à vivre célibataire, 1 Corinthiens 7, 9, 36 à 37. Les circonstances difficiles actuelles, comme la persécution, 1 Corinthiens 7, 26. Les responsabilités du mariage, 1 Corinthiens 7, 27 à 28, 32 à 35. Les bonnes priorités. Le célibat n'est ni meilleur ni plus spirituel que le mariage et vice-versa. Il existe des tentations, des difficultés, des bénédictions et des avantages propres au mariage et au célibat. Chaque situation est adaptée à des personnes et à des moments différents. Par ailleurs, l'épanouissement personnel et la plénitude doivent provenir de notre relation avec Dieu indépendamment du statut matrimonial. Psaume 73, 25, Psaume 107, 8 à 9. En outre, tous les chrétiens, mariés ou non, doivent garder le cap sur l'éternité, car la vie est courte et l'éternité est certaine. 1 Corinthiens 7, 31. Lisez Matthieu 6, 26 à 33. Dans ce passage, Jésus explique que les valeurs et les priorités du monde sont très différentes de celles des chrétiens. Le but ultime du chrétien est de prendre part au royaume de Dieu. La priorité absolue du chrétien est de mener une vie de justice par la grâce de Dieu. Dieu promet de pourvoir aux besoins physiques et matériels de ses enfants s'ils obéissent aux paroles de Jésus en Matthieu 6, 33. Dans quel contexte est-ce qu'un homme chrétien doit se marier? Si le mariage peut l'aider à mieux défendre les intérêts du royaume de Dieu. Si le mariage peut l'aider à mener une vie de justice plus féconde et plus victorieuse. Dans quel contexte est-ce qu'un homme chrétien doit rester célibataire? Si la recherche du mariage, ou le mariage lui-même, risque de le détourner de son rôle dans le royaume de Dieu. S'il peut être plus fécond sur le plan spirituel en étant célibataire. S'il peut obtenir la victoire spirituelle et maintenir la pureté morale sans avoir l'intimité sexuelle que procure le mariage. Sujet de réflexion. Si vous êtes célibataire, prenez le temps d'une réflexion personnelle, honnête. Êtes-vous obéissant à la parole de Dieu? Quelles sont les tâches que Dieu vous a confiées dans son royaume? Selon vous, quelle est la mission à long terme que Dieu vous a confiée pour votre vie? Pensez-vous que le mariage améliorerait ou détériorerait votre relation avec Dieu et vos œuvres pour Dieu dans le monde? Accepter les priorités de Dieu aide les chrétiens célibataires à décider s'ils veulent ou non se marier. Ces priorités nous aident également à déterminer les qualités recherchées chez un conjoint potentiel. Tout chrétien désireux de se marier doit rechercher quelqu'un qui accorde la priorité à Dieu, qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu et qui cherche à étendre le royaume de Dieu. Lisez Éphésiens 4, 17 à 24 et 1 Jean 2, 15 à 17. Les êtres humains sont de nature égocentrique. Ils obéissent aux désirs de leur corps et de leur pensée, Éphésiens 2, 3, et sont prêts à désobéir à la parole de Dieu. Les pécheurs agissent souvent par plaisir, par convenance ou pour attirer l'attention des autres. Leur priorité est de se faire plaisir. Ils peuvent nouer une relation amoureuse avec quelqu'un sur la seule base d'une attirance physique. Ils peuvent entretenir une relation avec quelqu'un au seul motif qu'ils éprouvent une certaine excitation en présence de cette personne. Certaines personnes peuvent rejeter le mariage par égoïsme, car c'est une relation basée sur des sacrifices. Ces personnes cherchent généralement à entretenir des relations sexuelles hors mariage, malgré le fait que Dieu condamne cet acte, 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Les personnes égoïstes peuvent abandonner leur conjoint lorsque le mariage devient difficile. Elles peuvent divorcer et passer à une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Dieu possède des bénédictions nettement meilleures pour les personnes qui obéissent aux instructions de sa parole. Psaume 19, 9, 12, Deutéronome 6, 24. Jésus nous invite à plaire à Dieu en toutes circonstances. Matthieu 16, 24, 2 Corinthiens 5, 9, Colossiens 1, 10. En tant que disciples de Christ, la priorité de nos vies doit être le royaume et la justice de Dieu. En outre, La priorité dans notre quête du mariage doit être le royaume et la justice de Dieu. Les raisons qui nous poussent au mariage et les moyens que nous mettons en œuvre pour y parvenir doivent honorer Dieu. Nous devons être attentifs aux valeurs de Jésus et obéir à ses bonnes et justes paroles. Enfin, nous devons honorer Dieu en répondant aux attentes qu'il a placées en nous en tant que mari et femme. Il y a un temps pour tout. Pour la plupart des personnes, le début de l'âge adulte est le meilleur moment pour se marier. Proverbes 5, 18, Malachie 2, 15, Tite 2, 4. Un jeune adulte devrait déjà être formé et prêt à affronter la vie. Un homme ou une femme doit être mature, apte à assumer des responsabilités et à prendre des décisions réfléchies. 1 Timothée 4, 12. Dans l'idéal, les jeunes adultes doivent être prêts à assumer les responsabilités du mariage et de l'éducation des enfants. Leur corps est également prêt à procréer, et dans la plupart des cas, ils éprouvent de forts désirs sexuels et le besoin d'une intimité conjugale. De nos jours, de nombreux jeunes adultes appartenant à différentes cultures retardent le mariage jusqu'à la fin de leurs études supérieures ou jusqu'à ce qu'ils deviennent des professionnels établis. D'autres jeunes adultes ne s'intéressent pas au mariage parce qu'ils préfèrent vivre sans aucune responsabilité. De nombreux jeunes adultes mènent une vie sexuelle immorale avant leur mariage. Ils éprouvent de puissants désirs sexuels. Sur le plan affectif, ils veulent une compagnie intime. Cependant, ils ne veulent pas s'engager à se marier et à fonder une famille à cause de leurs objectifs de vie ou de leur refus d'assumer leurs responsabilités. Les jeunes adultes chrétiens qui retardent leur mariage doivent examiner attentivement leurs priorités. Ils doivent s'assurer qu'ils mènent une vie pieuse et pure et qu'ils suivent la volonté de Dieu. Certains doivent considérer l'importance que Dieu accorde au mariage et à l'éducation d'enfants pieux. Les couples qui vivent ensemble sans être mariés. Il arrive qu'un homme et une femme vivent ensemble dans une relation intime, sans être mariés. Ils peuvent s'attacher l'un à l'autre, sans pour autant s'être mariés. Les raisons sont diverses. Premièrement, les pratiques culturelles, qui exigent des cérémonies élaborées et coûteuses, empêchent les couples pauvres d'organiser des noces acceptables. 2. Parfois, un couple refuse le mariage par crainte d'un éventuel échec. Ces personnes considèrent qu'une séparation serait moins désastreuse si elles ne sont pas mariées. Elles peuvent espérer que leur relation devienne plus forte en vivant ensemble. Dieu a réservé l'intimité sexuelle aux couples mariés, Hébreux 13, 4. Les couples qui vivent ensemble, mais ne sont pas mariés, désobéissent à la parole de Dieu. Leur intimité ne sera jamais complète à cause d'un manque d'engagement définitif et exclusif l'un envers l'autre et d'un manque de confiance réciproque. Les chrétiens ne doivent pas prendre exemple sur les pécheurs, mais doivent obéir à la parole de Dieu. L'Église doit défendre les principes moraux de Dieu et offrir un soutien pratique pour aider les couples à suivre un plan scripturaire pour le mariage. Par exemple, si un couple n'est pas capable d'organiser un mariage onéreux, la famille chrétienne doit l'aider à organiser un mariage modeste. Ainsi, les couples pourront obéir aux principes moraux de Dieu en se mariant. De plus, le couple n'aura pas à s'endetter au début de son mariage. Les chrétiens doivent savoir que le mariage va au-delà d'une simple cérémonie nuptiale. Il requiert un engagement sérieux et sincère. Lisez Romains 12, 2 et Philippiens 2, 15 à 16. Discutez de l'impact de l'engagement moral des chrétiens sur la culture qui prévaut. Un célibat saint. Une question de soumission. Tous les enfants de Dieu doivent abandonner leur désir à Jésus. Jésus est Seigneur. Tout au long de leur vie, les chrétiens seront mis à l'épreuve dans leur dévotion à Jésus, leur Seigneur. Ils rencontreront des moments difficiles. Le bien qu'ils désirent ne se produira pas et Jésus demandera à ses disciples : « Suis-je votre Seigneur ? Faites-vous confiance à ma bonté ? Croyez-vous que je possède un plan parfait ? Allez-vous m'obéir ? Allez-vous vous abandonner à moi ? Vous soumettrez-vous à ma volonté ? Me glorifierez-vous dans cette situation ? Certaines personnes sont heureuses de rester célibataires. Cependant, ceux qui désirent se marier et qui n'ont jamais réussi dans cette entreprise doivent accepter humblement le choix de Dieu de retarder leur mariage. Les chrétiens doivent comprendre que si Dieu désire qu'ils se marient, il le manifestera en son temps et de manière convenable. Cependant, Dieu doit toujours être la priorité et il doit bénéficier d'une confiance totale. One tiré de Leslie Ludy, Sacred Singleness, Eugene, Oregon, Harvest House Publishers, 2009, page 24. Dieu est bon et digne de confiance. Il souhaite accomplir ses œuvres dans le cœur et la vie des chrétiens célibataires. Dieu accordera toujours le meilleur à ses enfants, notamment les bénédictions qui apportent la plus grande gloire à Jésus. Dieu œuvre en toutes choses pour nous rendre semblables à Jésus dans notre caractère. Romains 8, 28 à 29. Et pour nous permettre d'adorer Jésus pendant toute l'éternité. 1 Pierre 1, 6 à 7. Dieu est parfaitement capable de donner un conjoint pieux à l'un de ses enfants. Il peut aider un homme chrétien à trouver une épouse pieuse, à condition que l'homme cherche une femme vertueuse qui honore Dieu par sa vie. Proverbe 18, 22, Proverbe 19, 14, Proverbe 31, 10. Une femme célibataire qui se consacre à Christ peut compter sur Dieu pour prendre parfaitement soin de ses besoins, même s'il conduit un homme à l'épouser ou non. Elle peut mener une vie épanouie et spirituellement féconde grâce à la provision et à la fidélité de Dieu. Si le célibat correspond à la volonté de Dieu pour elle, il sera un compagnon parfait, un pourvoyeur, un protecteur et un leader. Jésus peut être son époux, Ésaïe 54, 5, et elle peut l'aimer, l'honorer, se soumettre à lui et lui obéir en lieu et place d'un mari terrestre. Si le mariage constitue le choix de Dieu pour elle, la période de célibat lui aura appris à avoir confiance en Dieu, l'unique amoureux parfait, le pourvoyeur, le protecteur et le leader, tout en apprenant à aimer, à honorer et à se soumettre à un mari imparfait et humain. La plénitude en Christ. Tous les chrétiens doivent trouver leur épanouissement suprême en Christ, et non dans un compagnon ou une compagne. Même si quelqu'un souhaite se marier, un célibat prolongé lui donne l'occasion de s'assurer de son épanouissement en Jésus. Le célibat offre la possibilité de prouver que Jésus suffit. Philippiens 4, 11 à 13. La Bible souligne clairement que Dieu a créé le mariage et que nous devons lui accorder une grande importance en tant qu'institution sacrée. Il n'était pas bon pour Adam d'être seul, mais était-ce parce que Dieu lui-même ne pouvait pas combler les besoins d'Adam? Certainement pas. Selon la Bible, Dieu a créé Ève parce qu'Adam avait besoin d'une aide, d'une compagne pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé sur terre. Certes, Adam et Ève ont reçu de nombreuses bénédictions et de nombreux avantages grâce à leur relation, mais leur mariage n'a jamais pris la place de Dieu. Dieu a toujours été présent, et il était toujours le premier et le principal sujet de leur amour et de leur adoration. Leslie Ludy, Sacred Singleness, Eugene, Oregon, Harvest House Publishers, 2009, pages 66 à 67. Un être humain peut apprendre à ressentir davantage l'amour de Dieu lorsqu'il n'a pas de conjoint ou de famille pour lui donner de l'affection physique et émotionnelle. Des passages comme Psaume 73, 25 à 26 sont des encouragements dans les moments d'épreuves émotionnelles et de tentations physiques. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et que désirer d'autre sur cette terre, car je suis avec toi? Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Comme l'a souligné Leslie Ludy, David, le psalmiste, a eu de nombreuses compagnes dans sa vie. Toutefois, la satisfaction parfaite que décrivent ces versets provient de sa relation intime avec Dieu. Leslie Ludy, Sacred Singleness, Eugene, Oregon, Harvest House Publishers, 2009, page 67. Leslie Ludy faisait référence aux psalmes 16, 11, psalmes 73, 25 et psalmes 107, 9. Un chrétien célibataire réalisera que Jésus est suffisant et qu'une relation avec Dieu est satisfaisante. Les occasions de servir. Lorsque les chrétiens célibataires trouvent leur satisfaction en Christ, ils transforment leur célibat en une occasion de servir les autres. Au lieu de se focaliser sur leurs besoins et d'éprouver une insatisfaction, ils apprennent à percevoir les besoins d'autrui et à y répondre. aider les autres est l'un des meilleurs moyens de mener une vie féconde et épanouie. Le caractère qu'ils développent pendant cette période de célibat leur permettra de continuer à porter de bons fruits tout au long de leur existence. Lisez Philippiens 2, 3 à 4 et Tite 3, 8, 14. Comme indiqué précédemment, différentes situations de vie offrent des occasions uniques. Chaque étape de la vie offre des possibilités et des limites. Une jeune femme est parvenue à dresser la liste des activités qu'elle peut accomplir en raison de son célibat. D'autres hommes et femmes célibataires peuvent dresser des listes différentes. Comme je suis une jeune femme célibataire, je peux plus facilement rendre visite aux personnes âgées et passer du temps avec elles. Préparer et servir des repas aux sans-abri. Étudier la Bible en profondeur et préparer des enseignements bibliques pour les enfants. Aider les femmes et les jeunes filles dans mon domicile. Consacrer du temps à la prière d'intercession sans être dérangée. Apprendre un nouveau métier. Écrire des lettres et des cartes d'encouragement. Être bénévole pour aider d'autres personnes à réaliser des projets. Adapter rapidement mon emploi du temps en cas de besoins spécifiques ou d'événements imprévus. Chaque être humain dispose d'occasions ou de responsabilités spécifiques en raison de son contexte de vie. Une liste dressée par une mère de jeunes enfants peut inclure, par exemple, le contenu des enseignements qu'elle prodigue à ses enfants ou des méthodes qu'elle utilise pour les éduquer. Comme elle est leur mère, Dieu lui a donné l'occasion et la responsabilité de servir de cette manière. À la fin de cette leçon, vous dresserez votre liste. La compagnie. Les personnes célibataires doivent impérativement établir des relations saines avec les autres. Comme nous l'avons indiqué dans les leçons précédentes, Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils soient en relation avec lui et avec leurs semblables. Les célibataires ont besoin de nouer des liens avec des personnes qu'ils peuvent soutenir, des enfants, des jeunes ou des personnes âgées. Les célibataires ont besoin de mentors plus âgés et plus matures pour les conseiller et les responsabiliser. Les célibataires ont besoin d'amis qui évoluent dans la même situation qu'eux afin de pouvoir s'encourager mutuellement dans le service du Seigneur et d'être en communion. Les célibataires ont besoin de se lier d'amitié avec des couples mariés et des familles. Ces amitiés comportent de nombreuses bénédictions. Des relations variées avec d'autres personnes offrent aux célibataires de nombreuses occasions de servir. L'amitié fournit une partie du soutien émotionnel et spirituel nécessaire aux célibataires. Elle permet de combler l'absence de la famille, surtout si une personne célibataire ne vit pas à proximité de ses proches. Deux précautions s'imposent. 1. Une personne célibataire ne doit pas s'engager dans une relation malsaine ou immorale à cause de ses besoins émotionnels et physiques. 2. Toute personne célibataire doit privilégier sa relation avec Dieu par rapport à toute autre relation avec les hommes. Les pensées. Tous les chrétiens doivent veiller à conserver des pensées pures par la grâce de Dieu, Proverbes 4, 23. Le psaume 19, 15 est une prière pour demander à Dieu de nous aider à lui consacrer nos vies à travers nos paroles et nos pensées. Cette prière nous rappelle que nous devons rendre des comptes à Dieu pour nos pensées et nos paroles. Il nous appartient de choisir les informations que nous introduisons dans notre pensée, Philippiens 4, 8, ce que nous regardons, écoutons ou lisons. Si nous voulons honorer Dieu, nous devons nourrir notre pensée de contenu pur, susceptible de nous rapprocher du Seigneur et de nous aider à lui obéir, Romains 12, 2, Romains 13, 14. Les disciples de Christ ne doivent pas se délecter des péchés des autres, Psaume 101, 3, 1 Corinthiens 15, 33. Prendre plaisir à regarder des actes immoraux revient à participer au péché en question. Romains 1, 32. Regarder et écouter de tels actes détruisent la sensibilité du chrétien au péché et l'empêchent de se focaliser sur son désir de plaire à Dieu. Proverbes 13, 20. La parole de Dieu souligne la nécessité d'adorer le Seigneur à tout moment. Proverbes 23, 17. Et de haïr le mal comme le fait le Seigneur. Proverbes 8, 13. Si vous craignez l'Éternel et si vous vous détournez du mal, vos bénédictions sont assurées. Psaume 111, 10. Lorsque nous avons désobéi aux instructions de Dieu, concernant les informations susceptibles d'entrer dans notre pensée et les sujets sur lesquels méditer, nous devons confesser nos péchés et les abandonner. Même dans le cas où vous avez accidentellement écouté ou regardé des contenus inappropriés, remplacez les pensées négatives qui en résultent par des idées saines et pieuses. Lisez Psaume 19, 15, Psaume 1, 1 à 2, Philippiens 4, 6 à 8 et Éphésiens 5, 25 à 27. Le passage de Philippiens nous enseigne que Dieu veut protéger nos cœurs et nos pensées, mais nous devons collaborer avec lui en méditant sur la justice. Méditer sur la parole de Dieu est essentiel pour avoir des pensées saines et pures. L'Épître aux Éphésiens nous révèle que la parole de Dieu nous purifie. Ce nettoyage inclut assurément notre esprit et nos pensées. Le célibat et la sexualité. Si vous étudiez uniquement cette leçon, veuillez également consulter la leçon 4 qui traite de la pureté sexuelle et des questions morales. Conclusion. Le célibat offre aux chrétiens des occasions idéales de grandir dans leur relation avec Christ et d'apprendre à servir les autres. Les célibataires doivent trouver leur épanouissement en Christ tout en nouant des relations saines avec leurs semblables. Ils doivent utiliser leur célibat comme une occasion de glorifier Dieu et de servir son royaume. Accorder la priorité à Dieu aide les chrétiens à prendre de bonnes décisions concernant l'éventualité d'un mariage. Prière. Père Céleste, merci de ta fidélité à notre égard durant toutes les périodes de notre vie. Merci pour les témoignages de ceux qui demeurent dans ta présence et pour ta gloire pendant leurs années de célibat. Aide-nous à nous abandonner complètement à toi tout au long de notre vie. Aide-nous à rechercher et à trouver l'épanouissement dans notre relation avec toi. Aide-nous à utiliser les occasions que tu nous as données dans notre vie actuelle. Accorde-nous de toujours t'honorer dans nos choix, nos pensées, nos relations avec les autres et notre service. Rends-nous féconds pour ta gloire. Amen.